Médicalement vôtre, l'éducation thérapeutique du patient, une émission proposée et animée par Fauzia Zedam.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Médicalement vôtre sur 91 FM Plus Montpellier. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'éducation thérapeutique du patient, ce qu'on appelle l'ETP, en pédiatrie. L'intitulé de l'émission « Comment se passe un programme d'ETP en pédiatrie ?» Pour nous en parler, je reçois le docteur Oscar Werner, pédiatre en cardiopathie congénitale au CHU Arnaud de Villeneuve, CHU de Montpellier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et je reçois Fanny Bédrine, péricultrice coordinatrice à l'UTEP Transition au pôle mère-enfant à l'hôpital Arnaud de Villeneuve au CHU de Montpellier. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci.
Alors, je souhaitais revenir un peu sur le principe de l'émission, parce que d'habitude, effectivement, nous invitons toujours un patient qui témoigne effectivement de son expérience sur la maladie. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Donc j'espère effectivement que ça sera pour une prochaine fois, ça sera l'occasion effectivement de refaire une émission sur l'éducation thérapeutique en pédiatrie et d'avoir dans ces cas-là plusieurs témoignages d'adolescents.
Ouais, c'est notre souhait hein, vraiment que les enfants ils puissent venir s'exprimer sur le sujet. Après, ça permet quand même de faire un petit tour avec notre expérience, j'espère de pouvoir partager ça avec les gens qui écoutent.
Absolument, c'est tout l'intérêt de cette émission. Alors, la gestion d'une maladie chronique constitue une préoccupation au quotidien pour les enfants ou les adolescents, pour les parents, mais aussi un véritable enjeu pour les soignants. Cet accompagnement dans le parcours de soins vise à l'acquisition de compétences thérapeutiques par l'enfant afin qu'il puisse mieux vivre avec sa maladie. Dans l'éducation thérapeutique pédiatrique, l'environnement familial, scolaire ainsi que les associations de patients jouent un rôle important dans le partage d'expériences et la transition de compétences entre parents, entre enfants ou entre adolescents. Les programmes d'ETP tiennent compte de l'âge de l'enfant, de son développement et de sa maturité. Ils sont évalués, réévalués et adapté au plus près des besoins de l'enfant pour son quotidien. Il s'agit d'un véritable accompagnement de l'enfant et de sa famille par les équipes soignantes sur le long terme. Alors, docteur Werner, je m'adresse à vous pour une première question. Qu'est-ce que l'ETP dans le cadre de la maladie chronique de l'enfant ?
En fait, c'est un petit peu de généraliser à toutes les sur-spécialités, puisque de la même manière que chez les adultes, on va parler de spécialités d'organes en quelque sorte, chez les enfants, de la même manière, on va avoir des enfants qui vont être suivis pour une maladie chronique des reins ou une maladie chronique endocrinologique comme le diabète ou une cardiopathie congénitale. Et ça va être des profils de patients très très différents sur le plan de l'importance des soins qu'ils ont besoin d'avoir tous les jours. Et donc, du défi sur le plan de l'éducation qu'il va y avoir. C'est-à-dire qu'un enfant qui doit se mesurer des glycémies plusieurs fois par jour et se faire de l'insuline plusieurs fois par jour, on va devoir passer beaucoup plus de temps avec lui pour lui expliquer les choses et pour lui expliquer l'intérêt de son traitement et de le suivre tous les jours par rapport à un patient qui a une cardiopathie congénitale chez qui le défi, ça va être, malgré le fait qu'il n'a pas de traitement et qu'il se sent bien dans la vie de tous les jours, ça va être qu'il continue à venir voir son médecin pour être sûr que ils comprennent que dans son intérêt, il faut que son suivi soit régulier et pour qu'il devienne un adulte en bonne santé, il faut qu'il continue à venir voir son cardiologue.
D'accord. Et dans l'ETP a pour objectif, d'une manière générale, de centrer effectivement sur le patient pour les adultes. Mais en pédiatrie, ce qui fait effectivement sa singularité, c'est que c'est plutôt une relation triangulaire entre enfants, parents et soignants.
Oui, c'est exactement ça. Et puis en plus, il y a la problématique, et nous, c'est une des problématiques qu'on traite beaucoup, c'est donc la transition, c'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte. En fait, c'est cette triangularité qui va devoir progressivement se modifier pour que justement l'adolescent devienne adulte et autonome. Et en fait, on va beaucoup travailler sur cette triangularité dans l'enfance, dans la petite enfance, sur l'importance pour les parents de donner les traitements correctement, de savoir ce qu'on fait avec ces traitements-là, etc. Et ensuite, on va basculer dans une logique différente qui va être de dire, vous devenez adolescent, vous serez bientôt autonome, vous habiterez peut-être plus chez vos parents. Et donc, en fait, c'est cette difficulté de progressivement, c'est pas pousser les parents en dehors, mais c'est les accompagner à, on va dire, déléguer, changer de responsabilité. C'est-à-dire que les parents se déchargent un peu sur leurs enfants et c'est parfois difficile puisqu'ils ont du mal à lâcher, quoi.
Alors, lorsqu'ils sont enfants, effectivement, c'est donc ce triangle-là qui est important. Et au fur et à mesure, effectivement, je veux dire, dans ce passage de transition dont vous parlez, docteur Werner, il y a une sorte de... Après, on parle effectivement, enfin, les enfants et les soignants. Et du coup, les parents sont un peu plus en retrait lorsqu'ils sont adolescents.
Nous, on veut les impliquer encore. Ouais. D'ailleurs, le programme de transition qu'on fait, qu'on va faire avec toutes les maladies chroniques et qu'on fait actuellement avec les cardiopathies congénitales, on les inclut dans le programme parce qu'on ne veut pas qu'ils se sentent mis de côté, mais on les inclut d'une façon où on participe quand même dans cette journée à leur expliquer que justement cette transition de compétences en fait des parents qui sont des vrais soignants vers ces enfants qui doivent eux-mêmes prendre un peu, on va dire, la première place dans leur prise en charge, elle est très importante. Et c'est pour ça qu'on veut les impliquer, pour leur expliquer pourquoi on pense que c'est nécessaire qu'ils prennent un peu de recul par rapport à leur enfant.
Parce que c'est vrai que c'est important de signaler qu'ils sont vraiment acteurs, je veux dire, surtout lorsque les enfants sont en bas âge, sont petits. Ils sont vraiment...
Et puis c'est leur histoire en fait. Hein. C'est depuis la naissance de leur enfant, souvent sur les maladies congénitales entre autres, c'est leur histoire. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont vécu avec ça, ça fait partie de leur personnalité à eux, d'être parents d'enfants malades. Et on leur demande un peu de prendre du recul par rapport à ça. Donc ils ont l'impression de lâcher, de perdre un peu prise sur leur vie à eux. Parce que ça faisait vraiment partie de leur quotidien, quoi.
Lorsqu'on parle effectivement de parents, mais ça peut être aussi tout l'entourage familial, la fratrie, les grands-parents, les personnes qui s'occupent de ces enfants, ça englobe effectivement Fanny Bédrine.
Oui, tout à fait. C'est souvent dans les pathologies, quelles qu'elles soient d'ailleurs, l'entourage autre que parents est bien sûr mis dans la boucle et eux aussi peuvent bénéficier de programmes d'éducation. On peut aussi les inclure, les accompagner. Je pense notamment au diabète. C'était ce que je voyais. J'avais eu travaillé à l'Institut Saint-Pierre auprès d'enfants diabétiques et les grands-parents venaient aussi aux journées d'éducation parce que le grand-parent peut être amené à garder l'enfant en vacances. Et donc c'est très important qu'aussi l'entourage soit formé et puisse...
Ils sont mis à contribution, quoi,
pleinement. Ils sont mis à contribution pleinement, bien sûr.
Docteur Werner, quelles sont les autres spécificités de l'ETP en pédiatrie?
Alors, comme on disait déjà, il y a quand même une importance, c'est de toujours adapter son message au niveau de compréhension de l'enfant, hein. Ça paraît être une logique implacable, hein, mais il faut savoir que c'est quand même pas aussi évident qu'on peut le penser, à savoir que un enfant de 4 ans va pas avoir le même niveau d'attention, de concentration. Il va falloir arriver à faire peut-être des exercices plus courts, un peu plus vraiment ludiques, basés sur le jeu, sur des nouvelles maintenant des applications. On essaye de pas trop exposer les enfants aux écrans, mais malgré tout, c'est quand même un moyen de garder leur attention un petit peu plus longtemps que juste en discutant avec eux. Pour les adolescents, on va essayer de parler de thématiques un peu actuelles, de thématiques qui peuvent les concerner, que ce soit autour de la sexualité, autour des consommations de toxiques potentiels auxquels ils peuvent être exposés à cet âge-là. Donc on essaie d'adapter vraiment notre discours en fonction de l'âge. Ensuite, il y a bien sûr l'intégration des parents dans le programme qui va être plus ou moins importante en fonction de l'âge. Parfois, les adolescents, quand ils vont arriver autour de 17-18 ans, ils vont pas forcément vouloir que les parents viennent à ces journées-là et ils vont avoir tendance à les mettre de côté, pas forcément dans un rejet des parents, mais plus parce qu'ils ont l'impression que ce moment, il est pour eux et donc ils veulent en profiter.
Ils prennent un peu plus d'autonomie.
Oui.
Parce que l'adolescence...
Mais parfois de façon un peu spontanée, hein, c'est-à-dire qu'on leur suggère souvent au cours de ces journées de transition que parfois, il faut qu'ils commencent un peu à ouvrir le courrier qu'ils reçoivent de l'hôpital, les comptes rendus de consultation, qu'ils le lisent, qu'ils le comprennent. Tout ça, parfois, ils le font spontanément et parfois, on leur en parle au cours de ces journées-là. Donc, ce n'est pas forcément naturel chez eux, quoi. Chacun est différent.
Fanny Bédrine, est-ce que le vécu de l'enfant, est-ce que pour animer des ateliers, pour programmer des ateliers, est-ce qu'on parle effectivement du vécu de l'enfant ? Est-ce que c'est important ça de l'incorporer effectivement dans les ateliers, et d'être au plus près des besoins quoi, des enfants ?
Alors, je ne sais pas si j'ai bien saisi, mais en tout cas, ce qui est toujours important pour un enfant, pour un ado, c'est toujours de partir d'eux. En tout cas, voilà, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils aiment, c'est animer un atelier, c'est toujours poser directement une question à l'ado, savoir lui ce qu'il fait, comment il le vit, c'est toujours partir de là, c'est pas aller donner un cours magistral et il va en retenir 10%. Voilà, c'est vraiment dire toi tu fais quoi et après partir de là pour adapter notre atelier en fonction de chacun.
Et ce sont des ateliers bien sûr qui évoluent. Hein.
Ah oui, hein, bien
sûr. Parce que lorsque vous avez un enfant de 6 ans et que vous le voyez 3-4 ans après,
évidemment,
les besoins ne sont pas les mêmes, le contexte familial peut-être est différent,
aussi,
donc ça s'adapte, ça se réévalue. Quoi.
Exactement. C'est important de les voir aussi à plusieurs moments de leur vie, de leur développement, pour pouvoir justement adapter après et les intégrer dans des choses qui pourront plus leur apporter à certains moments de leur vie, oui.
Et même finalement, à chaque séance, en fonction de la dynamique de groupe, nos ateliers ne vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que si on sent qu'on est dans un groupe pas forcément très dynamique, où il n'y a pas forcément d'interaction, on va utiliser un type d'atelier plus qu'un autre. Quand vraiment on sent qu'il y a une bonne ambiance, on va juste se contenter de faire des ateliers de partage d'expérience, où on va les lancer sur un sujet et parfois ils peuvent parler sans s'arrêter pendant trois quarts d'heure en se relançant sur moi dans mon domaine moi la cicatrice de en lien avec ma chirurgie c'est un problème etc effectivement et quelqu'un d'autre qui va le relancer en disant effectivement c'était un problème mais j'ai pu en discuter avec un psychologue ou j'ai pu aller voir un chirurgien plasticien qui m'a proposé de faire une petite action dessus etc et en fait en fonction vraiment de chaque groupe parce qu'on fait essentiellement quand même des séances de groupe, on va avoir un rendu qui va être différent et on va utiliser des outils d'éducation différents.
Alors juste pour préciser, docteur Werner, je vous ai présenté comme pédiatre en cardiopathie congénitale. On va un petit peu expliquer un peu ce que c'est en deux, trois mots pour avoir...
Tout simplement, on ne le sait pas forcément, mais c'est la première cause de malformation congénitale chez l'enfant, c'est la malformation cardiaque. Mm-hmm. Ça représente quasiment un enfant sur 100, ce qui est quand même énorme. Et il faut savoir que parmi ces enfants-là, il y en a un tiers, plus de la moitié, qui, on pourrait considérer, vont rentrer dans une prise en charge de maladies chroniques, en fait, et donc qui ne vont pas forcément subir une intervention, mais qui vont être suivis pendant plus d'une dizaine d'années pour cette malformation congénitale. Donc on peut considérer qu'ils ont une maladie chronique.
Toute leur vie ?
Ça va dépendre. Il y a certaines cardiopathies congénitales qui se guérissent entre guillemets d'elles-mêmes ou qui peuvent être réparées. Enfin, j'aime pas ce mot, mais qui peuvent être opérées et finalement leur cœur on considère comme guéri et donc on peut arrêter le suivi au bout d'un certain temps, mais c'est quand même une petite partie. Et parmi les cardiopathies complexes, la majorité sont suivies toute leur vie. Ouais.
D'accord. Fanny Bédrine, est-ce qu'il y a des ateliers thérapeutiques pour toutes les pathologies ? Ou alors pour les enfants, je parle.
Oui. Il y en a, je pense que toutes les spécialités proposent des programmes d'éducation propres à leur spécialité qui visent l'autonomie de l'enfant.
Ce sont les objectifs, ça.
Oui, ce sont les objectifs, oui, c'est souvent ça. Ouais.
La formation, la transmission d'informations, les objectifs.
Oui. Mais je pense qu'à peu près toutes les spécialités proposent des programmes d'éducation aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a des critères d'âge, hein, parce que là effectivement vous m'avez dit que vous vous occupiez effectivement des 13-25 ans,
oui.
C'est ça, dans ce à l'UTEP transition.
Oui.
Mais Avant, effectivement, justement, avant, est-ce que les enfants très jeunes ou même les nourrissons peuvent bénéficier, effectivement? Alors, on peut peut-être pas parler d'ateliers d'éducation thérapeutique.
Mais si, parce que même quand ils sont très jeunes, que c'est des nourrissons, ça va être éduquer le parent pour pouvoir, par exemple, si c'est un traitement où il y a besoin d'adapter les doses, on va bien sûr éduquer le parent pour qu'il sache faire cette adaptation. Ou à une technique d'administration qui est particulière, et donc du coup il faut les éduquer là-dedans. Et après l'enfant quand il grandit, lui aussi forcément il va être inclus là-dedans, et petit à petit pour que lui aussi puisse savoir se gérer, comprendre aussi pourquoi c'est important pour lui.
Est-ce qu'il y a un an, deux ans, trois ans, on explique aux enfants, effectivement, lorsqu'ils font des soins quotidiens?
Bien sûr, ça c'est même de manière générale dans tous les services de pédiatrie, ça fonctionne de cette manière-là. Quand on arrive pour faire un soin à un enfant, quel qu'il soit, même si ce n'est pas dans un programme d'éducation, on parle à l'enfant. On explique ce qu'on fait, pourquoi on le fait, on met en place même des protocoles pour la douleur, si c'est quelque chose d'un peu invasif qui peut faire mal. Et on explique aux parents ce qu'on va faire pour que le parent soit aussi le plus à même de comprendre aussi pourquoi on va faire ça et qu'il soit aussi aidant à ce moment-là.
D'accord. Et du coup, le vocabulaire a énormément d'importance.
Ah oui.
C'est de s'adapter.
Oui, bien sûr. Oui, oui.
D'accord.
Et d'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus, la pathologie dans laquelle on a vraiment un exemple d'éducation thérapeutique organisée et qui fonctionne, c'est la mucoviscidose, hein, tout simplement, avec donc la plupart des centres qui maintenant ont une unité spécifique dédiée à ces patients-là. Et on a remarqué que ces enfants-là, plus on les prend tôt, entre guillemets, dans leur maladie, plus on leur explique tôt, mais peu importe la manière dont on leur explique, mais avec des mots adaptés, bien sûr, l'intérêt de la kinésithérapie, l'intérêt des aérosols, l'intérêt de bien faire maintenir une petite activité physique, etc. Et ben, tout ça, c'est des éléments qui font qu'on a ensuite des jeunes adultes ou des adolescents qui tolèrent mieux la charge énorme de traitement qu'on leur impose. Parce que dans le cadre de la mucoviscidose, c'est des séances pluricotidiennes quasiment de kinésithérapie. En tout cas, tous les jours, ils ont une séance de kiné, ils ont des aérosols, ils ont des traitements, ils ont des cures d'antibiotiques sur plusieurs semaines, etc. Et donc, psychologiquement, c'est très dur à gérer. Mais le fait qu'on les ait éduqués le plus tôt, ça permet en fait d'avoir des adolescents qui comprennent mieux l'intérêt des traitements et le fait qu'ils se sentent mieux avec. Et donc, on a une adhérence. Après, au moment de l'adolescence où ça peut être un petit peu difficile avec le rejet de la maladie chronique parfois, généralement on arrive à ce que ça se passe un peu mieux quand même.
Est-ce qu'il y a des adolescents qui refusent le traitement ou qui le...
Alors on a toujours des réactions, que ça soit... Et c'est souvent dans ces maladies où il y a nécessité de soins tous les jours. Le diabète, la mucoviscidose, tout ça. Parfois on va avoir des adolescents qui... au moment de l'adolescence, au moment de cette période un peu critique de leur vie, ils décident de tout rejeter.
Un ras-le-bol,
mais comme on peut voir d'ailleurs chez les patients adultes, mais eux, ils le font à ce moment-là le plus souvent. Et c'est vrai que c'est très difficile à gérer pour nous, parce qu'en fait, on est un peu impuissant par rapport à ça, parce que finalement, nous, on peut les éduquer autant qu'on veut. Parfois, y a des réactions qui sont juste... incontrôlable, c'est-à-dire que vraiment c'est injuste, ils ressentent une injustice telle que pour eux, ils rejettent tout. Et après il y a des parents qui arrivent finalement quand même à bien étayer tout ça, et généralement, mais c'est vrai que ça, l'adolescence c'est souvent assez critique comme période.
Est-ce qu'il y a un suivi psychologique?
Et c'est un des gros manquements de l'hôpital public, mine de rien. On passe notre temps à dire que l'hôpital public va mal, mais finalement, nous, dans notre quotidien, on le ressent pas forcément sur le plan en pédiatrie, on le ressent pas forcément tous les jours, mais sur le plan psychologique, c'est clair et net que si ça fait 15 ans qu'il y a un manquement évident, c'est sur celui-là. Nous, on n'a pas de psychologue. Faut s'imaginer qu'on n'a pas de psychologue dans le service de cardiopédiatrie où on gère des patients qui sont opérés du cœur avec des parents qui sont traumatisés pour toute leur vie de ce qui se passe chez leur enfant. Donc, c'est vraiment une grosse faiblesse qu'on a, nous, dans notre prise en charge.
D'accord. Donc je vous propose une pause musicale avec le groupe Glass Animals et le morceau s'intitule Youth, qui veut dire jeunesse. Nous sommes toujours dans l'émission Médicalement Vôtre sur 91 FM Plus Montpellier et nous venons d'écouter le groupe Glass Animals et l'intitulé de cette chanson c'est Youth, qui veut dire la jeunesse. Je suis toujours en compagnie du docteur Werner, pédiatre au CHU de Montpellier et de Fanny Bédrine, péricultrice, coordinatrice au pôle enfant-mère à l'UTEP Transition du CHU de Montpellier. Alors première partie, nous avons abordé effectivement l'éducation thérapeutique en pédiatrie d'une manière générale et particulièrement axée sur les critères qui étaient importants, qui étaient l'entourage, la pédagogie et le vécu des enfants. Dans une seconde partie, on va s'adresser plutôt à Fanny Bédrine. Et je vais vous demander effectivement quelle est la mission du pôle mère-enfant dans le cadre de l'ETP.
Alors, le pôle mère-enfant à l'hôpital, enfin, l'hôpital comprend plusieurs pôles. Ouais. Le pôle mère-enfant, c'est tout le pôle où il y a tous les services de pédiatrie et aussi les services de maternité, gynéco.
Voilà. Voilà. D'accord.
Voilà. Donc, nous, au sein de la pédiatrie, qui fait partie de ce grand pôle mère-enfant, là, il y a bien sûr. L'éducation thérapeutique qui est mise en place pour l'enfant et son parent. Voilà.
D'accord. Parce que donc, vous êtes coordinatrice à l'UTEP de transition.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors ça, en fait, c'est une unité qui appartient donc à ce pôle.
Voilà.
Et donc, qui est dédiée à la transition des services pédiatriques aux services adultes. Voilà. Donc en fait, notre mission, c'est de proposer un accompagnement le plus personnalisé possible, le plus adapté à chaque adolescent, pour lui permettre de passer cette phase de transition entre la pédiatrie et les adultes le mieux possible et que ce soit vécu le plus normalement possible, que ça fasse partie en fait d'une étape normale de sa vie. Voilà, parce que actuellement, ça peut être vécu comme quelque chose d'assez violent, si ce n'est pas préparé. Voilà, donc il est important qu'on y réfléchisse. Donc c'est ce qu'on fait actuellement. On a quasiment fini de rédiger tout le programme qui sera proposé très prochainement aux adolescents. Donc on les prendra en charge assez jeunes.
Quel âge à peu près?
Ça peut être pris en charge dès l'âge de 13 ans.
D'accord.
Et ensuite le suivi se poursuit et peut se terminer à l'âge de 25 ans. Voilà, donc c'est une fourchette large. Alors bien sûr, au début, c'est d'abord faire de l'information, parler de la transition, c'est permettre une autonomie aussi de l'adolescent dans sa maladie, dans sa prise en charge, aussi lui permettre d'acquérir la compréhension aussi de ce qu'il a. Voilà, donc de lui permettre et aussi que nous, on puisse faire une évaluation régulière des capacités du jeune à franchir le pas après par la suite.
C'est un programme que vous proposez?
Oui.
Ou c'est sous forme d'atelier, sous forme de journée? Comment ça se passe concrètement?
Alors,
ça se
en
passe
fait, toute la phase de préparation à ce moment du transfert, donc qui se fait jusqu'à 18-19 ans, là, c'est un programme d'éducation thérapeutique avec des ateliers de groupe. Ça pourra être aussi fait en individuel, suivant le choix du patient.
La famille y participe? Peut y participer?
Oui, bien sûr. La famille est inclue dès le début dedans. On proposera des ateliers de groupe où ce ne sera que les adolescents, d'autres où ce sera adolescents et parents, et d'autres où ce sera même que les parents. Voilà, donc là c'est vraiment un programme qu'on a rédigé où on propose plusieurs ateliers, des ateliers socle où là on conseillera vivement à l'adolescent de venir. S'il décide de participer à ce programme, voilà, on lui dira il faut que tu viennes à ça, c'est vraiment très important pour toi. Après on lui proposera d'autres ateliers plus optionnels sur le sport, sur la gestion du stress, sur la gestion de la douleur, un atelier pour les filles, voilà, un autre pour les garçons, un autre pour les parents, voilà. Donc ça sera plus optionnel, où on abordera des thématiques vraiment très particulières.
Dans le cadre de programme polypathologie?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Ce sera pour tout adolescent atteint de pathologie chronique, donc ça concerne toutes les spécialités.
Donc les enfants qui sont extérieurs à l'hôpital peuvent y participer? Comment vont être recrutés les enfants?
Alors en fait, nous, vu qu'on est une unité qui s'appelle UTEP, on est destiné à s'ouvrir à toute la région Occitanie-Est, donc anciennement Languedoc-Roussillon. Et notre rôle sera aussi d'être une unité mobile où on pourra aller dans tous les hôpitaux périphériques. Donc ça, ce sera fait dans un second temps. D'abord, on va le mettre en place vraiment au CHU à Montpellier. Mais rapidement, on s'étendra à la région pour un peu aller aider l'équipe à créer, eux, leur
formation. Alors,
dans le cadre de formation aussi, pour aller là-bas directement sur place. Les jeunes sont à Perpignan, par exemple, et les faire venir à Montpellier, eh bien nous on ira et on co-animera avec les équipes de Perpignan. Voilà,
la question que je me pose, cette bascule
oui.
entre Comment elle se passe dans la tête d'un enfant qui a passé effectivement une bonne partie de sa jeune vie,
ouais,
effectivement dans un service pédiatrie, à qui on dit à un certain âge, maintenant il va falloir que tu côtoies d'autres médecins, que tu changes complètement les repères.
C'est la question essentielle de la transition, et en fait c'est là où en fait les auditeurs qui nous écoutent se rendent pas forcément compte du défi que c'est en fait, mais jusqu'à présent il faut savoir que je parle toujours pour ma paroisse, entre guillemets, hein, mais dans les cardiopathies congénitales, jusqu'à récemment, on avait 2/3 de nos patients qui finissaient dans la nature à l'âge adulte. Donc finalement, on se rend compte que finalement, ces choses-là, elles ne se faisaient pas jusqu'à présent. Donc ça nécessite qu'on s'y attache avec l'UTEP transition, justement.
D'accord. Alors je suis désolée, mais il va falloir terminer l'émission. C'est passé très très vite. Donc, je vous remercie infiniment, docteur.
Il n'y a pas de souci, c'était un plaisir
d'être venu. Et Fanny Bédrine, je vous remercie également d'avoir parti à cette émission. En tout cas, on prend rendez-vous pour une prochaine émission.
Avec plaisir, parce qu'on a encore vraiment énormément de choses à aborder. Et c'est vrai que ces différents programmes, en tout cas, si des auditeurs qui nous écoutent sont intéressés, ils sont disponibles. Notamment, on a fait, entre autres, sur les cardiopathies congénitales, des vidéos YouTube avec des jeunes qui expliquent en quoi consistent ces journées, qui sont disponibles sur YouTube. On pourra vous transmettre les liens si besoin. Et vraiment, c'est un sujet qui est essentiel au CHU de Montpellier. En tout cas, on est très impliqués là-dedans. Donc, ça nous intéresse d'en reparler autant de fois que possible.
Beau programme. En tout cas, je mettrai effectivement toutes les informations que vous me donnerez tous les deux sur le site de l'émission. Je vous remercie vraiment infiniment.
Merci.
Et puis, je vous en prie, c'est un plaisir.
Et je dis aux auditeurs à très bientôt pour une prochaine émission avec une autre thématique. Au revoir.
Au revoir.